Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Point d'orgue et j'aimerais que nous poursuivions ensemble le chemin que nous avons fait depuis la semaine dernière dans le XVIIe siècle, de Louis XIV et en particulier celui de la Chapelle Royale, puisque nous avions commencé à écouter quelques chefs-d'œuvre par les grands motets et aujourd'hui j'aimerais que l'on poursuive avec les petits motets. Alors ça ne doit pas être David contre Goliath, faites attention, les petits motets ont aussi des merveilles à dire, notamment sur le point de vue musical et également dans les textes, vous allez bien le comprendre rapidement. Alors le petit motet est cultivé en France dès les années 1640 et sous le règne de Louis XIV, il prend la forme de la musique religieuse la plus pratiquée dans le cadre liturgique, bien sûr comme je vous le disais aux côtés du motet à grand cœur, et ils sont exécutés principalement au moment de l'élévation pour les saluts du Saint-Sacrement, ou également sous la forme d'antienne pour les grandes fêtes de l'année liturgique. Et c'est ce qui confère à ces motets quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'ils vont revêtir un caractère beaucoup plus intimiste. Et ces petits motets sont pratiqués dans toutes les grandes institutions religieuses du royaume, alors notamment les couvents, la chapelle royale de Versailles, naturellement, et également la maison royale de Saint-Cyr, qui avait été fondée par Madame de Maintenon pour l'éducation des jeunes filles pauvres de la noblesse. Donc vous voyez, il y avait quelque chose de tout à fait ample dans ce phénomène des petits motets qui étaient exécutés partout. Et alors, selon leur destinataire, ils présentent des effectifs qui sont assez variés, d'une à deux, voire trois voix d'hommes, de femmes ou mixtes, avec ou sans instrument. Donc vous voyez, c'est une forme qui est extrêmement variée et qui fait que finalement le petit motet a de nombreuses formes. C'est pas une forme qui est très arrêtée. Alors que le motet, lui, à grand cœur, comme celui que nous avons vu la semaine dernière, s'appuie principalement sur des psaumes, lui, le petit motet, comme il s'adresse à un moment plus, on va dire, intime de la liturgie, avec cette espèce de salutation qui se faisait à l'époque, qui aujourd'hui ne se fait plus, eh bien, on privilégie des textes qui sont empreints d'une spiritualité beaucoup plus intérieure, dans lesquels transparaissent toutes les nuances de la spiritualité de ce temps. Donc, c'est assez extraordinaire parce que ça constitue, avec la musique instrumentale et la cantate, un terrain qui est finalement très perméable à la mode italienne, qui à cette époque gagne les cercles musicaux, bon, naturellement par le biais de Lully qui était lui-même italien. Et donc finalement, il y a autour de ces motets quelque chose de l'ordre de la querelle qui se monte, parce que ça devient presque une querelle de spécialistes. Mais vous allez voir que les spécialistes en question étaient capables de faire des choses tout à fait variées, tout à fait appréciables, qui ont donné des pépites pour la musique liturgique que nous sommes aujourd'hui ravis de réécouter et de redécouvrir. Alors, je vais vous proposer de commencer avec un compositeur qui m'est cher en tant que sudiste, si j'ose dire. Il s'agit de André Campra. Alors, André Campra, il est allé un petit peu partout, hein. Donc, c'est un musicien de génie qui était, si vous voulez le situer au niveau de la temporalité des grands musiciens, il était entre Lully et Jean-Philippe Rameau. Donc, vous voyez, il est tout à fait dans cette mouvance-là. Et alors, il a eu le poste, l'un des grands postes les plus prestigieux, qui était celui de maître de musique à Notre-Dame de Paris. Mais avant cela, il a été à la cathédrale de Toulon, à Arles, et également à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Donc, vous voyez qu'il a eu un parcours quand même assez éclectique. Et bien entendu, il avait ses entrées à la chapelle royale de Versailles, où il a pu notamment composer certaines œuvres qui ont été demandées par le roi. Donc je vais vous proposer d'écouter quatre petits motets. Je vais vous les mettre à la suite, de sorte à ce que vous puissiez en profiter tout simplement. Et vous allez voir qu'il s'agit de caractères qui sont extrêmement différents et qui donnent matière à voir ce qui pouvait se passer à la cour. Donc, au XVIIe siècle. Alors le premier c'est Ecce Panis Angelorum, le deuxième Venite Adoremus, le troisième Adorate Suprema Deitas, et enfin le dernier Cantate Domino.
Oh.
Et voilà pour ces quatre petites pépites, ces quatre petits motets de Campra. Bien entendu, il en a composé une foultitude d'autres. Et vous avez bien compris que le petit motet, c'était finalement pas de la musique au rabais. C'est également de la très grande musique, plus concentrée, plus vive, mais qui servait à ce moment particulier de l'élévation où on devait mettre en évidence la gloire, la majesté du Christ incarné. Et c'est pour ça que autant de musique venait servir ce moment particulier de la messe. Alors, vous voyez bien que les caractères de ces petits motets sont extrêmement différents les uns des autres. Vous avez vu qu'il y en avait qui étaient très intérieurs, comme je vous le disais au début. Hein. Mais c'est pas parce que nous sommes dans un moment intimiste que forcément la musique est toujours parfaitement sobre, sans exubérance, même sans joie. C'est le propre du baroque, hein, également, d'être capable d'apporter beaucoup de joie dans cette musique-là, avec notamment ces cordes pincées, la virtuosité des violons, etc., qui font que, eh bien oui, il y a des moments un petit peu plus exubérants qui soulignent ce moment sacré de la messe particulier qu'est l'élévation. Et alors, vous avez entendu qu'il y avait des moments qui étaient beaucoup plus enjoués, comme ce dernier cantate domino. Donc là aussi, on est toujours au service du texte, avec quelque chose de plus exubérant, plus joyeux, qui souligne la majesté divine. Alors, naturellement, ce petit motet, cette mode, oserais-je dire, des petits motets, va peu à peu s'effacer au profit des grands motets, notamment lorsque la cour va déménager à Versailles. Donc, peu à peu, alors certes, les grands motets et les petits motets vont cohabiter, mais peu à peu, les petits motets vont se perdre, et c'est bien dommage, et aujourd'hui, bien entendu, on ne joue plus rien à l'élévation. C'est un moment qui est tout à fait en silence dans nos liturgies actuelles. Toutefois, ça ne doit pas nous empêcher de réécouter ces chefs-d'œuvre. Alors, je vous en ai fait donc écouter quelques-uns de Campra, mais tous les compositeurs que je vous ai cités la semaine dernière, de Lalande, je peux en citer plein d'autres, hein, Lully, bien entendu, que nous allons écouter, Marin Marais, il y a une foultitude de talents à cette époque-là, puisque les arts étaient au service de la liturgie. Et notamment, si vous allez à Versailles, il n'y a pas que la musique, hein, y a également la peinture qui a été mise à contribution avec ce plafond magnifique de la chapelle royale de Versailles que je vous invite à découvrir. Et c'est le propre de ce siècle-là, en tout cas de la volonté royale. N'oubliez pas que à cette époque-là, la musique et même liturgique, surtout liturgique d'ailleurs, pardon, était extrêmement politique. N'oubliez pas qu'il s'agissait d'asseoir sa suprématie face au pape, face à Rome. Et donc, il était extrêmement important d'avoir cette spécificité française. Donc, non seulement vous l'aviez par la forme musicale, mais également, je vous le rappelle, par la prononciation à la française, donc vous l'entendez bien ici avec les U qui sont bien prononcés U et pas OU, etc. Diverses spécificités qui font de ces motets, petits et grands, des choses tout à fait spécifiques de cette France du XVIIe siècle, de cette France musicale du XVIIe siècle. Alors maintenant que nous avons écouté Campra, André Campra, donc un grand génie, un petit peu méconnu, je vous invite à découvrir également ses autres pièces. On va se tourner vers la star hein, du XVIIe siècle et en particulier de la cour royale du château de Versailles. J'ai nommé Lully, immense musicien, immense intrigant aussi, politicien très fin, qui avait réussi à se faire une carrière absolument immense au sein de la cour et également dans le royaume de France. N'oubliez pas qu'aucune partition ne pouvait être publiée dans le pays sans l'accord de Monsieur Lully, ce qui fait qu'effectivement, il avait une place à tenir. Et quand on écoute certaines de ses œuvres, et en particulier certains de ses petits motets, on voit qu'il n'était quand même pas dénué de talent, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors je vous invite à découvrir une œuvre extrêmement intimiste, pour le coup, O Sapientia. Vous allez voir que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus récitatif et horizontal, mais non dénué de charme. C'est ici interprété par les Arts Florissants et William Christie.
Thank you.
encore une perle de subtilité de ce compositeur de génie que fut Lully. Là, vous voyez que nous sommes dans quelque chose de totalement différent, un esprit, bien entendu, qui diffère de ce que nous avons entendu précédemment, bien entendu, parce que le compositeur est différent. Mais vous le savez, Lully a été capable de choses beaucoup plus triomphantes, beaucoup plus... Enfin, l'image du roi soleil, finalement. Et là, nous sommes dans une intimité que je trouve totalement symptomatique de ce que l'on s'attend à voir pour un petit motet durant l'élévation. Donc, vous voyez quelque chose de très calme, très... tout en intériorité, tout en finesse, et avec cette espèce de... On ne sait pas si... Les voix sont des violons ou les violons sont des voix. Vous avez toute la conduite musicale se fait de sorte à ce que les deux finalement se confondent et fassent corps. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est cette espèce de cohésion qui forme un tout qui vient couronner ce moment de la liturgie de l'élévation et qui fait que ces petits motets sont encore aujourd'hui de véritables petits bijoux que je vous invite à découvrir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui avec cette musique du XVIIe siècle. À partir de la semaine prochaine, temps de l'Avent oblige, nous allons nous tourner vers la période de Noël. Et alors là aussi, au niveau musical, bien entendu, nous avons nombre de merveilles. Pour ma part, je vous rappelle tout de même l'actualité de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, puisque nous ferons notre concert de Noël à la Basilique le samedi 9 décembre à 20h. Donc je vous invite à prendre vos places sur le site de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Faites-le parce que c'est un petit peu moins cher que sur place. Il y aura sûrement beaucoup de monde, donc je vous invite à prendre un petit peu d'avance. C'est l'occasion d'entendre du grand répertoire, également des choses beaucoup plus traditionnelles, mais aussi d'entendre les quatre chœurs de la Schola. Donc les enfants, le chœur d'homme, le chœur grégorien et le grand chœur que je dirige. Donc venez, et en plus il y aura une petite surprise interactive, donc je vous invite à venir nombreux à ce concert de Noël. À toutes et tous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.